Bien, je vais commencer. À l'issue de certains cours, des cours qui ont déjà eu lieu, certains d'entre vous ont bien voulu venir me trouver pour me présenter des observations, des informations, des compléments sur ce qui a été dit. Alors j'estime que ceci, naturellement, est une pratique très productive dans la mesure où elle n'est pas processive, mais coopérative. Ce cours, surtout avec son découpage en traits, en figures, je dirais que c'est un peu comme un damier de cases, bref, comme une topique. Mon rôle est de poser des cases autour d'un thème et puis de commencer à les remplir plus ou moins, mais il va de soi que les cases peuvent être remplies par d'autres, en particulier par vous. Alors, je vais essayer, chaque fois que il y aura lieu, de rapporter au début de chaque cours les observations faites sur le cours précédent, pour autant qu'elles seront complémentaires. Ce sera, si vous voulez, une sorte de courrier des auditeurs. Alors, on m'a fait les observations suivantes, ou les compléments suivants que je vous transmets, et qui me paraissent très utiles. D'abord, une petite question, j'avais demandé, ou je m'étais demandé pourquoi le mot « idiorythmie » s'écrivait avec deux R. J'avais supposé, à tort, mais en sachant au fond que c'était à tort, que le doublement de l'air venait d'une assimilation de l'ess de « idios », mais ça ne me paraissait pas satisfaisant. En réalité, on m'a fait remarquer, et c'est juste que cet S qui s'est transformé en un second R vient tout simplement de l'aspiration du rho initial dans rhythmos. J'avais dit que je ne connaissais pas de roman de l'idiorythmie. On m'a fait remarquer, et je pense que c'est juste, que les affinités électives de Goethe pourraient être considérées comme un tel roman, et aussi un roman de Simone Jacquemart que je ne connais pas et dont je n'ai pas retenu le titre. Quant au mot « assez dit », qui est le premier trait dont j'ai parlé la dernière fois, on m'a fait les deux remarques suivantes. J'ai parlé de point mort, l'assez dit comme état, une sorte d'état de point mort, et j'ai cité le héros de la montagne magique, Hans Castorp. On me fait remarquer très justement que le narrateur de la recherche du temps perdu connaît lui aussi un point mort très important, c'est ce qui se situe juste avant le temps retrouvé, au début du temps retrouvé, lorsque, après une interruption où le narrateur va dans différentes maisons de santé, il revient à Paris, et dans le train qui le ramène à Paris, il connaît un moment de désolation intense, qui est vraiment un moment d'assédie, tel que je l'ai essayé de le décrire. C'est le moment où il comprend qu'il n'est pas doué pour écrire, et que donc, en quelque sorte, il doit désinvestir de l'écriture. Et c'est l'assédie dans toute son horreur, quand effectivement un être a cru qu'il était fait pour écrire ou qu'il voulait écrire toute sa vie, toute sa jeunesse, et puis que tout d'un coup, il comprend que non, il n'est pas fait pour cela et qu'il doit désinvestir. C'est l'assédie dans toute sa pureté. Mais vous savez que dans la recherche du temps, dans le temps retrouvé, il y a un retournement miraculeux, et que c'est précisément en allant un peu par habitude, et parce qu'il sait justement que puisqu'il n'écrira plus, ce n'est plus la peine qu'il se retire du monde, il va à la matinée Guermantes, que à la suite d'incidents mystérieux et miraculeux, il retrouve le sens de l'écriture. Voilà pour la première remarque sur la CEDI. La seconde est plus technique, c'est que on m'a fait remarquer que Kedeia, en grec, ancien et moderne, voulait dire aussi, outre les sens que j'ai indiqués, voulait dire aussi enterrement. Par conséquent, akedeia, C'est un deuil sans enterrement, un deuil sans objet. Et j'ai dit en effet que c'était le deuil du sentiment plus que de l'objet. C'est en cela que la cédille est un état extrêmement douloureux, puisque dans la cédille, on éprouve le deuil du sentiment lui-même et non pas de l'objet du sentiment. Et en effet, le comble de la désolation pour le symbolique humain, nous le savons depuis longtemps, c'est la mort sans sépulture, akedeia. Et ça serait ça, la cédille. Comme j'ai dit, le déchet sans poubelle. Voilà donc ce que je voulais rajouter au cours passé. Alors, je poursuis donc la revue de ces traits qui nous permettent de planer un peu en tournant autour du vivre ensemble idiorythmique. Et je rencontre ici encore un mot grec, c'est le hasard de l'alphabet, c'est l'anachorèse, anachorésis, qui est formé du préfixe ana, qui indique l'éloignement, mais de bas en haut, n'est-ce pas, contrairement à kata, qui est de haut en bas, dans catastrophe par exemple. Ana, c'est en remontant, et korein, qui veut dire aller. Donc, ana korein, ça veut dire remonter au loin, aller au loin dans un mouvement de remontée. L'anachorèse, c'est donc un acte ou un état ou un concept, comme les mots en six, de séparation d'avec le monde par une remontée vers un lointain profond, intime et secret. Quelques mots, disons, pour aborder historiquement la notion. L'inclination à la retraite, c'est-à-dire l'anachorèse proprement dite, l'éloignement loin de la ville ou des villes, existait déjà chez les païens. Mais évidemment, le mot a pris un sens extrêmement précis dans les débuts du christianisme. L'anachorète, c'est celui qui fait profession de se retirer du monde. Il devient l'habitant d'une cabane ou d'une cellule, kélion, dans laquelle, dépendant ou non d'un couvent ou d'une laure, il vit seul ou avec un ou deux frères. Par conséquent, l'anachorèse ne réfère pas forcément à une solitude absolue, mais plutôt à ceci, à une sorte de raréfaction des contacts avec le monde, dans un esprit, disons, qui reste toujours individualiste. L'éloignement du monde, oui, il y a eu, on le sait, une sorte de flambée d'anachorèse à la fin du IIIe siècle et au début du IVe siècle, dont évidemment le témoin exemplaire est Antoine, saint Antoine, qui a d'abord vécu en ermite dans des tombeaux des pharaons, puis qui s'est éloigné dans des montagnes d'Égypte. Cette flambée d'anachorèse, elle est liée évidemment à une conception religieuse, mais elle est liée aussi, semble-t-il, à des contraintes civiles. En général, souvent, en tout cas, l'anachorèse correspond ou coïncide avec une fuite du sujet loin de l'État, loin des contraintes et de l'emprise de l'État. C'est pour échapper à l'État, pour échapper au fisc, pour échapper au service militaire, que l'anachorèse se produit, ou plus subtilement, lorsqu'un sujet éprouve un besoin d'indépendance, un besoin de raréfaction par rapport aux contacts sociaux, la nécessité de se protéger des contacts sociaux, ce qu'on peut très bien comprendre, car le contact social peut être ressenti comme une fatigue très lourde. Les anachorètes, donc, chaque anachorète se gouverne comme il l'entend, c'est-à-dire qu'il a tout un régime de prière individuelle, privée, plus en général l'exercice d'un travail manuel En Égypte, c'était de la vannerie, du tissage, des nattes, avec psalmodie. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'anachorèse, comme terme générique, ne coïncide pas avec l'érémitisme, avec la situation d'ermite. Dans l'anachorèse, il y a possibilité de cohabitation à deux ou trois et de rattachement à une laure, et la URE, nous allons voir ça à un autre moment, c'est-à-dire à une sorte de village anachorétique. Et il y a des visites d'anachorètes entre eux. Et il y a aussi des anciens qui sont là pour conseiller, non pas pour diriger, mais pour, disons, tempérer les excentricités. Car le grand problème à cette époque-là de l'anachorèse et de l'érémitisme, c'était le déferlement de l'excentricité. Nous reviendrons sur ce problème. Donc les anachorètes ne sont pas des solitaires absolus, ils peuvent vivre à deux ou trois, ils se visitent entre eux, et puis de toute manière, en général, dans cette Égypte du 3e ou du 4e siècle, ils se réunissent, notamment le samedi, pour une sorte d'assemblée religieuse qu'on appelait la synaxe, S-Y-N-A-X-E, avec une liturgie commune. De là, nous pouvons inférer, disons, une certaine valeur métaphorique de l'anachorèse. L'anachorèse est fondée par un acte de rupture, une secousse de départ. Et il faut en général que l'éloignement du monde soit symbolisé par quelque chose. L'anachorèse, c'est d'abord une action, c'est comme une ligne, un seuil à franchir. Par exemple, si nous prenons un matériel que nous avons déjà trouvé, à savoir Robinson Crusoe. Bon, Robinson Crusoe est pratiquement en état d'anachorèse. Bien sûr, c'est pas lui qui l'a voulu, mais pratiquement, ce qui est mimé par l'aventure de Robinson Crusoe, c'est une anachorèse. C'est un éloignement radical du monde. Or, dans le cas de Robinson, il y a un arrachement au monde par le naufrage. C'est pas le naufrage de Robinson symbolise l'arrachement qui fait l'anachorèse, puisque en un moment, il n'a plus aucun compagnon autour de lui et ne surnage que trois chapeaux, un bonnet et deux souliers dépareillés. Bah, ce qui est vraiment l'acte même, le signe même de l'anachorèse. Et au bout de 13 jours, le navire qui était resté plus ou moins debout sur les récifs s'engloutit et à ce moment-là, tout pont est coupé avec le monde, et vous savez que le monde reviendra ensuite dans le roman, peu à peu, mais sous la forme de cannibale. On peut aussi imaginer, bien sûr, ce n'est qu'une case que je dessine, n'est-ce pas, le dossier serait infini à remplir, une anachorèse purement laïque, je dirais que ce serait celle de Spinoza à la fin de sa vie, quand on nous dit qu'il se retire dans un village, une localité près de La Haye, qui s'appelle peut-être encore, j'en sais rien, Vorburg, V-2-O-R-B-U-R-G. Spinoza avait d'abord voulu se retirer dans une pension, mais il s'est aperçu qu'il dépensait trop en pension. Et alors il a loué une chambre chez un particulier pour pouvoir manger à sa guise, c'est-à-dire acheter sa nourriture moins chère. On peut dire qu'à ce moment-là, c'était une vraie anachorèse, parce que justement, elle n'était pas d'une solitude rigoureuse. Spinoza descendait parfois discuter avec ses hôtes, et son biographe nous dit, il y vécut à sa fantaisie d'une manière fort retirée. On a dans cette phrase très simple, à la fois l'anachorèse, le retirement, et l'idiorythmie, il y vécut à sa fantaisie. Je pense que cette notion d'anachorèse doit être précisée pour trois raisons en ce qui nous concerne. Premièrement, du point de vue historique, c'est la matrice même de l'idiorythmie, puisqu'il y a là une petite structure à la fois collective ou micro-collective et individualiste, ce qui est l'orientation même de l'idiorythmie. Deuxièmement, l'anachorèse recouvre tout fantasme de retraite sobre. Pas le Spinoza à Vorburg, c'est une image pacifiante, c'est une image qui peut faire envie. Et par là, on comprend que l'anachorèse se dessine un peu comme une solution individualiste au problème du pouvoir.